Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux, et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
À toutes et à tous, bonjour. En ce mercredi 26 mai 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Aïoa, délai de la dernière chance. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, les noms des candidats à la présidentielle 2021 d'Iran ont été annoncés. Les Syriens se rendent aux urnes alors que le vote a commencé à travers la Syrie pour une élection présidentielle. Et puis, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est sur le point d'envisager une enquête internationale sur les abus israéliens dans la bande de Gaza et en Palestine occupée. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les noms des candidats à la présidentielle 2021 d'Iran ont été annoncés. Le comité des élections du ministère iranien de l'Intérieur a annoncé les noms de 7 candidats à la 13e élection présidentielle de la République islamique d'Iran, dont les qualifications de candidature ont été approuvées par le Conseil des gardiens de la Constitution. Ibrahim Raisi, 60 ans, chef de l'autorité judiciaire, Saïd Jalili, 55 ans, membre du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohsen Rezaei, 66 ans, secrétaire du Conseil de discernement, Ali Reza Zakani, 56 ans, député et président du Centre de recherche de l'Assemblée iranienne, Amir Hossein Razizadeh Hashemi, 50 ans, député et premier vice-président de l'Assemblée iranienne, Mohsen Mehralizadeh, 65 ans, ancien vice-président et ancien chef de l'Organisation de l'éducation physique. Abdel Nasser Emati, 64 ans, gouverneur de la Banque centrale, sont les 7 candidats à l'élection présidentielle 2021 de l'Iran. La 13e élection présidentielle de la République islamique d'Iran se tiendra le 18 juin 2021. Le président Hassan Rouhani a déclaré que ce sont les États-Unis qui devraient faire le premier pas en ce qui concerne le respect des engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire iranien. Hassan Rouhani a félicité les négociateurs iraniens à Vienne, affirmant qu'ils avaient bien avancé dans les pourparlers avec d'autres parties. Il a déclaré que les négociateurs étaient parvenus à un accord sur des questions clés, ajoutant que les pourparlers visaient à relancer l'accord nucléaire de 2015. Le président Rouhani a déclaré que des questions telles que les mécanismes permettant à Washington de revenir à ses obligations étaient en cours de discussion. Il a déclaré que l'Iran avait le dessus dans les négociations. Les négociations à Vienne se poursuivront jusqu'à ce que les intérêts de l'Iran soient acquis. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré mardi, à l'issue de la réunion de la commission mixte du GCPOA à Vienne, les négociations sur la relance de l'accord nucléaire se poursuivront jusqu'à ce que les intérêts du pays soient acquis. Abbas Araghchi, qui préside la délégation iranienne au pourparlers de Vienne dans le cadre de l'accord nucléaire, a déclaré dans une interview « Aujourd'hui, le cinquième cycle des négociations de la commission mixte du JCPOA, qui se compose de l'Iran et des 4 plus 1, a commencé mardi. Nous avons d'abord eu une réunion de la commission mixte. Les dialogues se poursuivront par les troupes de travail dans les deux domaines concernant les activités nucléaires et la levée des sanctions. Et un troisième groupe de travail se focalise sur la manière de mettre en œuvre les engagements. Le chef de la diplomatie iranienne, Javad Zarif, a félicité l'anniversaire de la libération du Sud-Liban. Dans des messages séparés, Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, a félicité Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, et Zeina Akar, ministre des Affaires étrangères par intérim du Liban. Javad Zarif a félicité à cette occasion l'anniversaire de la libération victorieuse du sud du Liban des forces d'occupation du régime sioniste, obtenue grâce au courage et au sacrifice des braves et libres combattants de la résistance, je cite. Le 25 mai 2000, l'armée sioniste est chassée des terres libanaises par la résistance après 22 ans d'occupation. Chaque année, cette date est célébrée dans tout le pays comme la journée de la résistance et de la libération. Les responsables du régime sioniste doivent être traduits en justice pour des crimes internationaux, déclaration du représentant d'Iran à l'ONU. Le régime sioniste a commis des crimes internationaux lors de la récente attaque contre Gaza. Et les responsables de ce régime doivent être traduits en justice, a déclaré Majid Tartravanchi. Se référant à des parties du rapport annuel du secrétaire général de l'ONU à ce sujet, le représentant de l'Iran a présenté ses inquiétudes profondes du fait que des civils, en particulier femmes et enfants, sont toujours les principales victimes des conflits armés et des cibles civiles telles que des hôpitaux et des écoles sont attaquées pendant ces attaques militaires. Dans la récente guerre violente et à grande échelle contre Gaza, les forces sionistes ont tué 240 vies palestiniens, dont 66 enfants, 39 femmes et 17 personnes âgées, et ont blessé 1948 autres. Cette statistique comprend 13 membres d'une famille dont la plupart étaient des enfants, dont un bébé de 6 mois qui a été tué dans leur maison et enterré sous les décombres de leur maison. Les forces israéliennes ont également détruit 30 établissements sanitaires, environ 50 écoles et autres centres éducatifs. Environ 50% du réseau de distribution d'eau et 33 bureaux de médias et endommagé 43 mosquées, déplore Tartravanchi. Sachez également que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est sur le point d'envisager une enquête internationale sur les abus israéliens dans la bande de Gaza ainsi que dans les territoires palestiniens occupés. Le projet de résolution présenté par le Pakistan au nom de l'Organisation de la coopération islamique OCI sera examiné jeudi. Il appelle le Conseil à créer de toute urgence une commission internationale indépendante pour enquêter sur les crimes israéliens lors de la dernière vague de violence contre les Palestiniens. Le texte exige également une enquête sur les causes profondes sous-jacentes des tensions et de l'instabilité récurrente, y compris la discrimination et la répression systématique contre le peuple palestinien. L'enquête devrait être axée sur la collecte de preuves qui pourraient être utilisées à l'avenir pour demander des comptes aux auteurs. Tel Aviv fait également l'objet d'une autre enquête de la Cour pénale internationale. Toujours dans l'actualité palestinienne, les images choquent des violences israéliennes visant les familles palestiniennes. Une vidéo a vu le jour montrant une adolescente palestinienne se faisant tirer dans le dos par un soldat israélien devant son domicile dans un quartier d'Al-Quds. Dans les images, on peut voir la jeune fille de 16 ans et plusieurs de ses proches sortir de leur domicile à Sheikh Jarrah le 18 mai. Ceci alors que des militants palestiniens protestaient à proximité contre l'expulsion imminente de 8 familles du quartier. Une autre vidéo prise sous un second angle montre les troupes israéliennes dans la rue. L'un d'eux menace de tirer si les membres de la famille restent à l'extérieur. Alors que la famille rentre, un soldat tire une balle en caoutchouc. On voit la fille s'effondrer et on peut l'entendre crier. Le même soldat jette alors une grenade assourdissante dans la maison. L'actualité, c'est également la Syrie. Les Syriens se rendent aux urnes alors que le vote a commencé à travers le pays pour une élection présidentielle. Plus de 12 000 bureaux de vote reçoivent des électeurs. Le ministère syrien de l'Intérieur a déclaré que 18 millions de Syriens avaient le droit de vote. Les expatriés et réfugiés syriens ont voté la semaine dernière dans les ambassades syriennes à travers le monde. Le président sortant Bachar Assad, Abdallah Saloum Abdallah, un ancien ministre d'État, et Mahmoud Maheri, une figure de l'opposition, sont les trois candidats à la présidentielle. Les États-Unis, l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont déjà dénoncé l'élection qui devrait fort éventuellement voir Assad vainqueur pour un quatrième mandat. Damas cependant dit que le vote est une affaire intérieure de la Syrie et que toute ingérence étrangère viole la souveraineté du pays et que seuls les Syriens auront le dernier mot en la matière. Retour à l'actualité iranienne avec la visite de Javad Zarif en Azerbaïdjan et en Arménie à Bakou. Zarif discute de la paix régionale et de la coopération avec le président azerbaïdjanais. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui se trouvait à Bakou dans le cadre de sa tournée dans la région, s'est entretenu avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Zarif est arrivé lundi soir dans la capitale azerbaïdjanaise pour des discussions clés avec de hauts responsables azerbaïdjanais sur les relations Téhéran-Bakou ainsi que sur des questions majeures d'importance régionale et internationale. Lors de leur rencontre de mardi matin, Zarif et Aliyev ont réitéré les intentions des deux voisins pour le renforcement des liens déjà cordiaux. Zarif s'est rendu ensuite à Erevan pour une série de discussions avec des responsables arméniens. Il a déjà rencontré le premier ministre arménien. Enfin, l'Iran est aux côtés de l'Afrique contre l'apartheid vaccinal, promet Zarif. Le ministre iranien des Affaires étrangères a tweeté pour féliciter la journée de l'Afrique 2021. L'Iran est aux côtés de l'Afrique, inspiré par son triomphe contre la domination, a déclaré mardi le haut diplomate iranien. Alors que le Covid-19 continue de ravager le monde, nous sommes à nouveau engagés dans la lutte contre l'apartheid, cette fois vaccinal, a-t-il ajouté. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Ayoa, délai de la dernière chance. L'Iran n'a plus besoin de bombes nucléaires pour nous dissuader, c'est ce qu'a écrit The National Interest. La bombe nucléaire est désormais une nécessité pour l'Iran. Selon l'analyste des National Interest, l'Iran possède l'un des plus riches et plus variés arsenaux balistiques du monde. Pas besoin vraiment de la bombe nucléaire pour dissuader les adversaires. La toute dernière bataille opposant Hamas et Israël l'a prouvé. L'Iran et ses alliés n'ont pas besoin de la matière fissile pour jouer de la dissuasion, pour intimider ses adversaires. Et puisque ces missiles ont juste ce qu'il faut pour s'avérer efficaces et vaincre l'adversaire, tout nouvel accord avec l'Iran devra à la fois inclure la puissance balistique iranienne et la réparation de tâches entre l'Iran et ses alliés que nous appelons « influence régionale ». En effet, c'est un mécanisme particulièrement synchrone qui consiste à transmettre à chacune des composantes de l'axe de la résistance une partie d'une puissance balistique centrale, et ce en fonction de la région où cette composante opère. En mer Rouge, ce sont les missiles de croisière et balistiques de longue portée. À Gaza, ce sont des missiles de courte portée. Quant au Hezbollah, on ignore toujours quelle en est la vraie nature de la surprise qui nous attend, affirme David Axe dans son récent analyse, avant d'ajouter « Un délai d'un mois décidé pour prolonger l'accord de l'Iran avec la IOA devra être mis à profit pour créer une brèche dans son mécanisme intelligent qu'est alliance Iran anti-américain et anti-israélien dans la région. Or, l'OTAN presse dans la mesure où la présidentielle iranienne est dans peu de temps et tous les courants qui étaient favorables à un accord avec l'Occident tendent à ne plus avoir la faveur des électeurs. Que s'est-il passé ce mardi à Vienne? L'article poursuit. La réunion de la commission mixte de l'accord sur le nucléaire iranien a pris fin à Vienne, capitale autrichienne. Une réunion de la commission mixte de l'accord sur le nucléaire iranien qui s'est tenue ce mardi soir à Vienne en présence des délégations de l'Iran et des 4+1, à savoir Allemagne, France, Russie, Chine et Royaume-Uni, s'est terminée après 1h30. La réunion a eu lieu au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères qui ont discuté d'un éventuel retour des États-Unis à l'accord nucléaire et des mesures qui pourraient garantir une application complète et efficace de l'accord. Ali Akbar Salehi, président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, a plutôt déclaré que l'Iran avait décidé de laisser les caméras de surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique, IAEA, d'enregistrer des images sur les sites nucléaires iraniens encore pour un mois de plus pour que les négociations de Vienne se poursuivent sans aucun obstacle. Il a ajouté que l'agence ne pourra pas accéder aux images prises par ces caméras. Si les négociations aboutissent d'ici un mois, les choses reviendront à la normale. Sinon, il va falloir que nous prenions une décision convenable à un moment opportun. Les négociations ont été bien menées jusqu'ici. Une partie des négociations se concentre sur les aspects techniques et une autre sur la levée des sanctions. Et de national interest de poursuivre. Ceci étant rien ne dit que les États-Unis réussiront à avoir gain cause. Salehi a souligné que l'Iran menait des activités à 60%, à 20%, à 5%. Et il disposait d'une gamme complète des centrifugeuses sophistiquées, telles qu'IR-6, et des facilités et moyens pour produire de l'uranium. Certes, la décision de l'Iran prouve que l'Iran n'a rien à cacher sur son programme nucléaire et qu'il fait de son mieux pour résoudre les problèmes à venir. Mais cela nous fait avancer. Pas vraiment. Après les vagues de missiles de Gaza contre Israël, même Israël, fervent opposant du PGAC, devrait se dire « N'était-ce pas une erreur qu'abroger l'accord avec l'Iran ?» Une chose est sûre, l'OTAN presse et la donne se complique. Déjà après l'annonce de la prolongation de l'accord jusqu'en juin, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Ali Akbar Salehi, a annoncé hier que l'enrichissement se poursuivrait et que l'accumulation des 20% des réserves d'uranium du pays dépassait les 90 kg. Le plafond des réserves d'uranium, qui doit s'élever à 120 kg en un an, au terme de la loi approuvée par le Parlement iranien, atteint les 90 kg en seulement 4 mois. L'annonce de la statistique, qui est largement au-delà du plafond prévu, montre la détermination de la République islamique d'Iran dans la mise en œuvre de la loi stratégique sur la levée des sanctions.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat au lendemain de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu qui a mis fin aux 11 jours de frappes aériennes meurtrières du régime sioniste contre la bande de Gaza. des manifestations se sont déroulées dans plusieurs pays du monde en condamnation des crimes israéliens. En France, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans différentes villes du pays pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens. Des manifestations similaires ont eu lieu également en Grande-Bretagne et surtout en Allemagne, où les manifestants ont réclamé des sanctions internationales contre le régime d'occupation israélien. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher surtout sur ce vaste mouvement de solidarité, sur cette nouvelle prise de conscience à l'échelle mondiale en faveur de la cause palestinienne, bien sûr, après l'ouverture de ce nouveau chapitre dans la résistance palestinienne face à l'armée d'occupation. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Alors qu'un cessez-le-feu négocié par l'Égypte a mis fin à 11 jours d'affrontements meurtriers entre Israël et la Palestine, des milliers de manifestants ont défilé samedi pour exprimer leur soutien au peuple palestinien dans les grandes villes européennes, notamment à Londres et à Paris. Plusieurs milliers de personnes ont défilé samedi à Paris et dans d'autres villes françaises pour soutenir les Palestiniens après un conflit de 11 jours avec Israël au cours duquel 260 Palestiniens ont été tués. Les manifestants se sont rassemblés sur la place de la République, scandant des slogans tels que « La Palestine survivra »,« La Palestine gagnera », Israël assassin, Macron complice, et nous sommes tous des Palestiniens. Bertrand Hilbron, président de l'association France-Palestine Solidarité, qui a organisé les manifestations à Paris et dans d'autres villes, a déclaré que le cessez-le-feu n'avait rien résolu et d'ajouter « Cette lutte concerne tous ceux qui adhèrent aux valeurs de justice, de dignité et de droit ». Des milliers de personnes se sont rassemblées à Londres samedi devant Hyde Park à Victoria. La foule a exprimé son soutien au peuple palestinien en tenant des pancartes, des manuscrits et des drapeaux palestiniens. La présence enthousiaste de la population dans ces manifestations a entraîné un ralentissement de la circulation automobile. Au cours de la manifestation, certains portant le drapeau du pays en soutien à la Palestine et des pancartes « Arrêtez de bombarder Gaza », d'autres scandant « Palestine libre »,« Israël est terroriste »,« Nous sommes tous palestiniens » et « Honte à toi Johnson » ont exprimé leur solidarité avec le peuple palestinien. Jeudi soir, le régime sioniste, après avoir été visé par 4100 missiles en 11 jours de la part de la résistance palestinienne, le cabinet de sécurité du régime sioniste a officiellement accepté un cessez-le-feu négocié par l'Égypte. Une heure plus tard, des groupes de la résistance palestinienne ont déclaré dans des déclarations séparées qu'ils respecteraient le cessez-le-feu aussi longtemps que Tel Aviv le respecterait aussi. Alors que tous les médias sionistes ont reconnu la défaite de Tel Aviv dans cette nouvelle aventure contre la résistance palestinienne et les énormes dépenses du régime sioniste pendant cette guerre, les Palestiniens sont descendus dans les rues de Gaza et de Cisjordanie, y compris la noble ville de Rots, pour célébrer la victoire de la résistance.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles, Luc Michel, géopoliticien, et depuis Paris, Aïssa Hamidani, analyste franco-syrien des questions internationales. Madame Hamidani, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous. Merci de votre invitation. Et bonjour à Monsieur Luc Michel.
Avant de revenir sur ce vaste mouvement de solidarité dans le monde et en l'occurrence en Europe, Madame Hamidani, bien sûr, le régime sioniste ne s'attendait pas à une telle résistance héroïque de la part des combattants palestiniens. La résistance palestinienne est entrée dans le contexte des récents combats dans une nouvelle phase. Et bien sûr, le monde entier... L'opinion publique mondiale aussi a connu une nouvelle prise de conscience en faveur de la cause palestinienne. Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau de l'opinion publique mondiale, en l'occurrence européenne, après les récents combats, après surtout la résistance héroïque des combattants palestiniens face à l'agression israélienne, Madame Midani?
En fait, pour revoir l'ensemble de la question, effectivement, cette victoire de la résistance palestinienne a mis en grande difficulté l'État israélien déjà, l'État d'occupation, à la fois sur le plan intérieur, sur le plan extérieur. D'abord, elle a mis en évidence et en exergue la violence et la sauvagerie avec laquelle cet État d'occupation traite la population palestinienne, aussi bien dans la mosquée Al-Aqsa que face à la résistance tout à fait légitime à Gaza, où il n'a pas hésité une seconde à bombarder les tours d'habitation sur la tête des habitants. Et il s'en est beaucoup pris, essentiellement pris aux civils. Donc le résultat est vraiment catastrophique. Surtout beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup de vieillards qui sont tombés. Et alors que c'était un échec total sur le plan militaire, la victoire de la résistance palestinienne, où elle a visé les centres névralgiques à la fois de l'économie et de l'armée, comme les aéroports, la plateforme illégitime d'ailleurs et illégale d'extraction du gaz dans le large de Gaza, les grands réservoirs de pétrole, etc., et puis le port de Haïfa, ainsi que des coins, des coins névralgiques économiques et militaires de l'État d'occupation israélien. Donc en fait, là, effectivement, il a essuyé des grosses pertes. On parle de 2,2 milliards de dollars dans ces 10 jours. On parle aussi de l'échec total de ces forces, en fait, dont il se vantait. C'est le dôme de fer à arrêter les missiles de la résistance. Mais aussi, en fait, le fait qu'il se soit systématiquement abattu sur sur les civils. Il se soit attaqué essentiellement aux civils, mais en plus, donc, un échec complètement sur le plan des services de renseignement, un échec militaire, un échec de ses équipements, dont il se vantait toujours, d'ailleurs. Et tout ça, ça a montré en fait à quel point cet État qui se vante de sa force depuis des années n'est pas plus, il est plus fragile, comme disait ce Mahat Cheikh Nasrallah, que les fils d'araignées, Donc en fait, ça c'est un point important. Le point important aussi du côté de la résistance palestinienne qui a montré pas seulement sa force, en fait, et sa détermination pour se libérer et de cet occupant tyrannique. Il y a eu l'unification de la résistance palestinienne, de toutes les différentes factions, à la fois par palestinienne, mais aussi de toutes les parties du peuple palestinien, que pendant des années, les Israéliens, comme toutes les forces occidentales qui les soutiennent, ont voulu le diviser entre les gens de l'intérieur de 48, qu'ils appelaient les habitants des territoires occupés en 1948, les habitants de la Cisjordanie, les habitants d'Al-Quds, en fait, de Jérusalem et Gaza, etc. Donc, nous avons pu assister à une très grande unité de l'ensemble du peuple palestinien.
Merci, Madame Yanni.
Dans cette bataille, ce qui a fait que, effectivement, l'écho mondial a été aussi très percutant, et les gens ont commencé effectivement à se rendre compte que ce combat, il a monté au devant de la scène internationale alors qu'on pensait l'avoir enterré.
Merci infiniment, Madame Edani, pour ces précisions. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous, à toute l'équipe et à Madame Edani.
Monsieur Michel, la résistance, la victoire de la résistance palestinienne a connu un large écho auprès de l'opinion publique mondiale, d'où justement des manifestations à grande échelle dans plusieurs pays du monde, notamment les pays européens, en l'occurrence la France, la Grande-Bretagne, mais aussi et surtout l'Allemagne. Donc désormais, Monsieur Michel, on assiste à une nouvelle prise de conscience au niveau mondial, y compris européen, en faveur de la cause palestinienne.
Écoutez, j'étais un tout jeune homme il y a 50 ans. C'était l'époque des grandes manifestations dans toute l'Europe pour le soutien à la résistance palestinienne. Un demi-siècle plus tard, eh bien, après une certaine baisse dedans, non seulement la résistance palestinienne ne s'est pas affaiblie, elle n'a pas plié, elle n'a pas mis un genou à terre, mais le mouvement international de soutien à la cause palestinienne a repris de plus belle. Il y a eu des manifestations un peu partout dans le monde occidental, et en particulier en France et en Belgique. Il faut souligner qu'en France et en Belgique, le régime de Macron et le régime belgique ont tous deux tenté d'intimider les manifestants et d'interdire ces manifestations. Samedi en 8, donc il y a 10 jours, à Paris, il y a eu une manifestation spontanée. Elle a été durement réprimée puisque le régime de Macron a envoyé ce qu'on appelle les robocops, c'est-à-dire la police militarisée. Elle a envoyé les gaz, elle a envoyé les canons à eau, et elle a sauvagement matraqué les manifestants, malgré tout des femmes et des adolescents. Et malgré cela, la volonté de manifester ne s'est pas tarie. Et une semaine après, toute la France se soulevait, la Belgique également. Il faut souligner quelque chose, c'est que les crimes de guerre israéliens à Gaza, à Cisjordanie, à Jérusalem, font aujourd'hui l'objet d'une indignation mondiale. Même la CPI, qui a longtemps été dans l'orbite occidentale, a ouvert un dossier préliminaire contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité israéliens dans les zones de Palestine occupées. Cette fois-ci, les Israéliens ont été trop loin. Aux frappes contre les civils systématiques se sont ajoutées, ce sont des crimes de guerre au regard de la loi internationale, les frappes contre les médias, notamment l'immeuble d'Al Jazeera, et d'un média américain, malgré tout, l'Associated Press. On n'avait pas vu cela depuis les frappes de l'OTAN en 1999 contre les immeubles de la radio-télévision serbe à Belgrade, mais qui a également eu il y a quelques jours, le bombardement et la destruction complète du temple du livre palestinien, la principale librairie palestinienne. On n'avait pas vu cela non plus depuis 2011 et l'agression de l'OTAN contre la Jamaïria, libyenne de Kadhafi, où le centre du livre vert, la principale bibliothèque de Tripoli qui comprenait des millions de livres, avait été entièrement détruit lors d'un raid terroriste avec des bombes incendiaires. On remet cela aujourd'hui contre la Palestine, mais contrairement à la Yougoslavie de 1999 ou la Libye de 2011, on est dans une autre époque. Les crimes de guerre occidentaux, les crimes de guerre de Tsahal, aujourd'hui, ne sont plus pardonnés par personne. Nous voyons une nouvelle dimension, nous voyons un souffle nouveau qui parcourt le soutien à la cause palestinienne.
Merci pour ces précisions, M. Michel. Restez avec nous, s'il vous plaît. Madame Edani, comme l'a rappelé M. Michel, le mouvement, le vaste mouvement de solidarité en faveur de la cause palestinienne, de la nation palestinienne, a repris de plus belle ces derniers jours. Bien sûr, dans les pays européens, notamment en France, la classe politique dirigeante a tenté d'intimider en effet les manifestants. Pourtant, les manifestants se sont déroulés. Alors la question qui se pose justement avec cet écart entre l'opinion publique et la classe politique par rapport à la question palestinienne, à quelle orientation devrait en effet s'attendre de la part des dirigeants politiques occidentaux?
En fait, les dirigeants politiques occidentaux sont malheureusement complètement sionisés et pactisent complètement avec Israël. Je voudrais quand même rappeler quelques points d'histoire, puisque Israël a été la création de l'impérialisme français et britannique, et qui a été aussi après soutenu par l'Union européenne et qui a été soutenu par les Américains. Donc en fait, depuis 1948, cet État complètement a été créé sur l'usurpation sur la Palestine, en fait, en légitimant par les votes de l'ONU, l'occupation, l'usurpation des terres palestiniennes par des immigrants venant de partout, parce que l'Europe voulait se débarrasser effectivement des Juifs et les envoyer quelque part dans le monde. Ça, c'est un premier point, et d'où d'ailleurs, pendant toutes ces années, un soutien à cette propagande sioniste de mensonges du style un peuple sans terre, un peuple sans terre pour une terre sans peuple, où ils sont allés aussi systématiquement encourager les migrations vers la Palestine. Je rappelle aussi que l'occupant, le mandataire en fait britannique sur la Palestine à l'époque a favorisé énormément non seulement l'arrivée des immigrants mais aussi les guerres terroristes qui ont été menées par l'Irgun, le Haganah, les bandes de Stern, etc., qui ont commencé et qui ont fait des massacres très importants dans la région contre les Palestiniens, les poussant à l'exode et les expulsant de leurs terres, les expulsant. Donc ce travail d'expulsion et d'appropriation, etc., continue depuis 1948, et aussi la résistance des Palestiniens continue depuis ce temps-là. Alors c'est comme ça qu'on se retrouve, que beaucoup de Palestiniens se retrouvent dans la diaspora et se retrouvent dans des camps de réfugiés, toujours depuis cette période, et d'ailleurs à plusieurs reprises, au fur et à mesure des agressions israéliennes et des massacres qui sont menés. Donc il y a des camps en Syrie, des camps au Liban, des camps de réfugiés en Jordanie, etc. Et puis il y a une diaspora aussi palestinienne dans le monde entier, puisque les mêmes pays là qui ont encouragé l'immigration juive à l'intérieur de la Palestine ont encouragé aussi un exode de la population palestinienne. Donc en fait tout ceci visait à ce que la phrase maîtresse, je dirais, des sionistes, c'était les vieux vont mourir, les enfants, les jeunes vont oublier, et puis tout le monde aura oublié que la Palestine aura existé. Ce qui est allé contre leur compte, en fait, la réalité, c'est que les jeunes générations palestiniennes et toutes les générations palestiniennes continuent.
Merci, Madame Idani.
À se rappeler de cette occupation ignoble, et aujourd'hui, ils veulent libérer leur pays et reprendre leurs terres et leurs biens. Et donc, le droit au retour est quelque chose de très sacré et important.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Monsieur Michel. Monsieur Michel, jusqu'où va continuer cette approche sionisée à des pays occidentaux, en l'occurrence européens, envers la question palestinienne?
le divorce est complet entre les régimes occidentaux et les opinions publiques. L'Israël, ça a toujours été un porte-avions américano-israélien au cœur du Proche-Orient, et les dirigeants, notamment européens et américains, ne dissimulent plus leur complicité. Cette complicité, c'est celle aussi de la plupart des médias occidentaux. En France particulièrement, les chaînes du milliardaire franco-israélien Drahi se sont distingués, qualifiant le Hamas d'organisation criminelle, donnant uniquement la parole aux lobbyistes pro-israéliens, et en particulier BFM TV et la chaîne d'extrême droite proche d'Éric Zemmour, CNews. Maintenant, c'est quelque chose. Vous avez vu, Netanyahou n'a pas caché sa satisfaction. Il a personnellement remercié Biden et la plupart des dirigeants européens. On distingue au premier plan d'entre eux le régime de Macron. Cela, c'est en train de se terminer. Il y a une opinion publique qui n'accepte plus cette complicité et qui s'est retrouvée dans les rues. C'est cela qui est en train de changer avec les vagues précédentes de résistance palestinienne. C'est-à-dire que les marches de plus en plus refusent l'étouffement et refusent la complicité de leur gouvernement. Quand on voit la CPI, qui jusque-là était dans l'orbite israélienne, condamner les crimes de guerre israéliens, on voit que quelque chose est en train d'évoluer. Pendant un demi-siècle, les dirigeants occidentaux ont cru, comme le dit Mme Minami, qu'ils allaient étouffer la voix des Palestiniens, que ceux-ci allaient oublier. Ceux-ci n'ont pas oublié, n'ont pas abdiqué. Et l'opinion publique mondiale aujourd'hui est aux côtés des Palestiniens. La cause de la Palestine, c'est l'un des derniers mouvements de décolonisation dans le monde, parce qu'Israël est un État colonial qui mène une guerre d'occupation coloniale en Palestine. Et c'est cela qui n'a pas pris. L'étouffement n'est pas intervenu, l'oubli n'est pas intervenu. Aujourd'hui, il faut dire un dernier mot, c'est que les dirigeants occidentaux, américains, européens se sont définitivement, à mon sens, disqualifiés pour être les arbitres du Proche-Orient. Aujourd'hui, l'arbitre du Proche-Orient, c'est reconnu même par les Israéliens, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a repris le rôle de protection des populations chrétiennes sont importantes en Palestine, mais il est aussi aujourd'hui de facto le protecteur des populations musulmanes. Poutine n'intervient pas seulement aux côtés de l'Iran et de la Syrie, mais Poutine également reçoit à Moscou les dirigeants du Hamas, les dirigeants du Hezbollah, les dirigeants de Ansarallah. Il est temps qu'on passe à un nouveau cycle de négociations sous l'égide cette fois de la Russie. Et le premier acte de ces négociations, ça doit être la reconnaissance de facto d'un État palestinien véritable, avec pour capitale la partie de la Palestine aujourd'hui occupée, qui appartient au regard de la loi internationale.
Merci, Monsieur Michel.
État palestinien avec pour capitale Al-Quds, Jérusalem.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Paris. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah, a prononcé ce mardi 25 mai un discours à l'occasion du jour de l'anniversaire de la libération du sud du Liban. Le 25 mai 2021, cela fait 21 ans que l'entité sioniste a été expulsée du sud du Liban, un anniversaire qui est célébré cette année dans un contexte totalement singulier. La Palestine vient de remporter une franche victoire militaire au bout de 12 jours d'un conflit où les missiles de la résistance omis au pas l'armée de l'air d'Israël. Le secrétaire général du Hezbollah y revient. Je félicite la très grande victoire de la résistance à Gaza, une victoire à la fois du peuple palestinien et de tous les groupes de la résistance. Désormais, au mois de mai, nous célébrerons deux grandes victoires, celle de l'an 2000 et celle acquise en 2021. Car cette récente bataille a été marquée par une brillantissime démonstration de force de tous les groupes qui composent la résistance palestinienne et surtout des combattants de ses branches militaires. Je suis de près les évolutions dès le premier instant et je tiens surtout à rendre hommage à l'impérissable figure de la résistance, le martyr Soleimani, pour les soutiens à la Palestine et au Liban. La victoire au Liban n'a été qu'un prélude à la victoire de la Palestine. Le Hezbollah a dédié sa victoire à la Palestine car c'est là notre objectif final. La victoire en l'an 2000 a eu des impacts stratégiques pour l'ennemi contre quoi il a mis en garde. Ce fut une victoire qui a placé le monde ennemi comme ami face à une nouvelle réalité stratégique. En effet, la riposte de la résistance palestinienne au régime occupant et à ses exactions à Sheikh Jarrah a été décisive, historique même. Or, certains pays arabes ont refusé, comme toujours, de prendre parti et s'arranger aux côtés de la Palestine comme il faut, et ce, en dépit de tout ce qui s'y passe. Et ces régimes ont même cherché à redorer le blason d'Israël. Mais Gaza lui a pris de court, amis et ennemis, en mettant à exécution sa menace de riposte, a déclaré Sayed Hassan Nasrallah. Et d'ajouter en effet que Quds fasse son entrée dans le cercle des cibles favorites de menaces et d'attaques d'Israël, cela a poussé le commandant de la résistance palestinienne à opter pour cette prise de position historique. Cette récente bataille n'a eu pour motif que la bêtise de l'ennemi sioniste et surtout le fait qu'il a sous-estimé la résistance et a mal calculé sa réaction. Le secrétaire général du Hezbollah a continué. Le régime sioniste croyait que les réactions à la judaïsation de Quds n'iraient jamais au-delà des communiqués. Sa plus grosse erreur aura été de ne pas juger Gaza aussi déterminé. Les sionistes devront bien comprendre que la profanation de Quds et d'Al-Aqsa et de leur sacralité est bien différente de toute autre profanation et que la riposte à une telle offensive et ne restera pas confinée aux frontières de la résistance à Gaza. L'agression contre Quds et Al-Aqsa, cela équivaut à déclencher une guerre régionale. Une fois qu'Israël aura compris la portée de cette équation, il comprendra que toute offense contre Al-Aqsa signifiera le déclin d'Israël. Et de souligner, le monde entier s'est senti placé face à une Palestine unie, souveraine, au cours de cette bataille. Une Palestine qui suit un seul et même objectif. L'épée de Quds a ramené la Palestine au centre du monde, au cœur de l'actualité et a ravivé l'esprit de la résistance pour que les terres occupées soient reprises. Cette opération a porté un coup assassin à la normalisation. Le deal du siècle est mort et le hideux visage de l'apartheid israélien a eu une fois de plus, était dévoilée au grand jour. L'une des conséquences de l'épée de Quds aura été l'engagement total et entier de Gaza dans l'équation de la Palestine, et c'est là un acquis historique. Idem, cette capacité nouvelle de Gaza à tenir les délais de ses tirs de missiles. Qualitativement, quantitativement et en termes de portée, les missiles de Gaza ont été différents. Quand un sioniste ne se sentira pas en sécurité en Palestine, il la quittera et c'est le moins qu'il est prêt à faire. L'épée de Quds a paralysé la donne sécuritaire en Israël et en termes d'acquis militaires, c'est sans précédent. Après cette bataille, c'en est fini de l'image d'un Israël paradis des investisseurs. Une autre conséquence a été l'engagement de la Palestine historique dans la bataille contre l'ennemi sioniste, ce que ce dernier considère comme une menace existentielle. Et puis, le renseignement sioniste a échoué face aux missiles de la résistance, tout comme le dôme de fer. Et puis, l'attaque israélienne a été incapable de porter atteinte à la partie la plus stratégique de l'arsenal de la résistance qui n'a pas été utilisée. mobilisés. Une autre défaite d'Israël aura été son incapacité à prévoir la réaction de Gaza et de la Palestine occupée en 1948. Mais la pire des défaites pour Israël a été son incapacité à entrer en conflit terrestre contre Gaza. La plus puissante armée de la région a peur d'une action terrestre et ceci est une défaite stratégique et non pas une quelconque défaite. Et l'un des signes d'un tel revers est l'impossibilité pour Israël de véhiculer l'image d'une victoire. Puis Israël a échoué à réaliser la moindre objectif stratégique. Totale défaite à atteindre le QG des commandants palestiniens. Totale défaite à attenter à la vie de notre frère Mohammad Zeif. Totale défaite à évaluer à sa juste valeur la vraie puissance de la résistance. Et qu'Israël ne refasse pas la même erreur au sujet du Liban. La résistance libanaise est dans sa meilleure posture. Elle n'a jamais été aussi puissante quantitativement, mais aussi qualitativement. Je m'adresse à l'ennemi. Ne te trompe pas dans tes calculs sur le Liban. Ne te précipite pas dans une nouvelle mésaventure. Car la résistance puise sa force dans le peuple libanais qui n'a été guère ébranlé malgré les efforts inlassables de l'ennemi. Le Hezbollah se trouve aujourd'hui en bonne posture et l'ennemi doit ajouter à la longue liste des comptes à régler le sang du martyr Mohammad Tahan. Ce jeune du Hezbollah qui représente les aspirations de la nouvelle génération prête à traverser les frontières, à couper les fils barbelés et à entrer sur la terre de la Palestine sans armes, les sionistes doivent comprendre que même si nous patientons, pour riposter à nos pertes, nous ne renoncerons jamais au sang pur de nos combattants. Et Nasrallah de conclure. Et qu'ennemi et ami se rappellent du récent communiqué de l'ayatollah Sistani en soutien à Gaza, à la Palestine. Quant au Yémen, on ne peut ne pas être ému jusqu'aux larmes face à autant d'abnégation, de solidarité du peuple et du leader yéménite Abdelmalek Al-Houthi avec la Palestine. Les Yéménites sont une grande puissance au sein de l'axe de la résistance et quand j'entends Abdelmalek, dont le peuple et le pays sont encerclés, dire qu'il est prêt à partager son morceau de pain avec la Palestine et les Palestiniens, j'ai la gorge serrée. Je lui dis « Abdelmalek, mais vous êtes vous-même sous sanction ». Le déclin d'Israël est plus proche et sa disparition est irréversible, c'est une question de temps. La question primordiale pour la résistance aujourd'hui est que la résistance s'est généralisée. Elle refait surface partout et c'est en Palestine qu'elle vient de remporter une nouvelle victoire. Quant à la République islamique d'Iran, elle tient bon à des milliers de kilomètres de ce que John Bolton voulait. La sanction et la menace de la guerre, l'Iran les a surmontées et va droit à la présidentielle.
Thank you. Thank you.